se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Nous y voilà, il est 6h07 et en ce 18 juillet 2020, je suis très heureux de vous retrouver pour ce week-end des experts. Vous le savez, le samedi et le dimanche, nous sommes là en direct avec vous, puisque le plus important dans ces rendez-vous avec nos experts que vous connaissez, ce sont vos appels, vos questions, vos réactions à tous les sujets qu'on évoque. Bien sûr, vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 3216 ou via l'appli RMC Direct Studio. De quoi va-t-on parler ce matin? Eh bien, écoutez, tout à l'heure de surveillance avec Raphaël Grably. Et on vous expliquera comment sécuriser votre maison avec des caméras connectées, des systèmes d'alarme, etc. Aujourd'hui, c'est très très simple à installer. Il suffit d'avoir une connexion Internet et tout se fait sans fil. On vous fera un petit point sur ce qu'il y a de nouveau et ce qu'il y a d'efficace. La forme, la santé, vous le savez, c'est avec Christian Akia qui sera là. On parlera des... Tourista. Et oui, les amis, quand ça commence à ne pas aller bien dans le ventre, que faut-il faire? Et surtout, est-ce qu'on peut se préserver de ce type de désagrément estival? On en parlera, entre autres, avec Christian Ecky. On évoquera aussi l'épidémie de cette Covid. Tout à l'heure, entre 7h et 8h, il sera là. Christian PC pour la maison, un spécial climatisation. Ça nous paraît logique, les températures vont monter. Quels sont les différents systèmes de clim aujourd'hui? Est-ce que c'est compliqué à installer? Combien ça coûte, tiens, une bonne clim? Est-ce qu'en cette période de l'année, on peut l'installer, par exemple? Est-ce qu'il y a des artisans qui le font? Est-ce que c'est pas un peu trop les embouteillages? On en parlera tout à l'heure aussi entre 7h et 8h. Et pour débuter, vous le savez, c'est le jardin. Le jardin, c'est tous les samedis 7h sur RMC. Et c'est avec Patrick Mulan. Bonjour Patrick.
Bonjour François, bonjour à tous. Très très bienvenue dans nos jardins qui ont bien passé la semaine.
Oui.
Que la température était inférieure aux normales saisonnières.
Exactement,
comme on dit.
Oui.
Et en revanche, il n'y a pas eu beaucoup d'eau. Donc,
il faut arroser. Et puis vous nous direz, tiens, qu'est-ce qui se trame cette semaine côté météo du jardinier? Non, dites pas trop, ça va. Quand Patrick dit ça va. Tout va bien. Alors, Patrick, au menu de cette heure dédiée au jardin, bien sûr, les questions au 3216. Vous pouvez joindre notre jardinier dès maintenant. 3216, l'appli RMC Direct Studio. N'hésitez pas, on retrouvera vos coups de cœur tout à l'heure. Et puis, on s'intéressera aux passiflores et aux fruits de la passion.
Oui, ce sont des fleurs qui s'épanouissent en ce moment, qui sont quand même d'origine toute tropicale, mais que l'on peut, pour certaines, cultiver dans nos jardins, ou alors peut-être d'ailleurs dans une serre. C'est sublimissime comme floraison, et ça a plein de vertus. Alors on aura un invité exceptionnel, comme d'habitude, pour parler des vertus. C'est Monsieur Christian Ecky, notre docteur préféré.
Qui sera là?
Il sera là.
Il est arrivé à 4h15 ce matin parce qu'il avait peur d'arriver en retard. Il a allumé le studio avec Kevin et Christian Ecky nous dira justement les bienfaits des fruits de la passion. Voilà. Est-ce qu'il y en a?
Et s'il aime ça.
C'est intéressant nutritionnellement. Voilà, et puis bien sûr, je vous le rappelle encore une fois, vous voulez joindre Patrick Mulan ce matin, posez vos questions au jardin, profitez-en. Amina est au standard, Gilles est aux commandes avec Kevin. Vous pouvez dès maintenant nous appeler 3216, l'appli RMC, Direct Studio. Et on attaque tout de suite avec le conseil de Mister Miu Miu.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC,
l'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Et Patrick, ce matin, on va parler de la lumière et des plantes. Comment, par exemple, les plantes utilisent-elles la lumière? À quoi ça leur sert, etc. Pour commencer, peut-être, comment peut-on définir? On va faire un petit peu de science, là, Patrick. Très léger, bien sûr.
Oui, on ne va pas aller très très loin, parce que la définition...
Comment définir la lumière?
La lumière est quand même extrêmement complexe. En fait, c'est une onde électromagnétique et qui produit une sensation visuelle. C'est-à-dire que dans le noir, quand il y a un ray de lumière, une torche par exemple, qui s'allume, vous la voyez.
Ça éclaire.
Mais en réalité, comme c'est une onde, ce n'est pas palpable.
Ben oui.
Et c'est une onde qui est constituée de différents spectre, si l'on veut, hein, avec des... Comme quand vous regardez l'arc-en-ciel, en fait, de quoi est composée la lumière blanche? Ben, la lumière qui vous apparaît blanche, en fait, c'est l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis, il y a des couleurs de lumière que l'on ne voit pas, nous, comme l'infrarouge ou l'ultraviolet, mais certains animaux, et notamment les insectes, le voient très très bien. Donc ça aussi, on peut qualifier de lumière. Et puis, bien sûr, la lumière est un transporteur d'énergie.
Et oui.
Avec c'est... des particules, notamment qu'on appelle des photons, et que l'on ne voit pas non plus. Et on parlait avant le début de l'émission du CERN, donc de l'accélérateur de particules. Eh bien, c'est dans ce genre de zone scientifique que l'on étudie les composants de la lumière, et ça va très, 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 très.
Alors, on peut imaginer l'importance de la lumière dans le jardin, et dans le monde végétal, hein, d'une manière générale, Patrick.
Et dans le monde vivant.
Et dans le monde vivant, bien sûr.
Parce que sans lumière, on ne serait pas capable de vivre, hein, puisque en fait, la lumière est la première des sources de l'énergie. En fait, qu'est-ce que fait la lumière essentiellement pour nous? Elle transporte l'énergie du soleil, jusqu'à nous. Et cette lumière solaire permet aux plantes de synthétiser de la matière organique en utilisant cette énergie lumineuse. Donc ça s'appelle la photosynthèse.
Mais comment, Patrick, les plantes captent-elles la lumière, vu qu'elles n'ont pas d'yeux? Sans jeu de mots, bien sûr.
Oui, non, mais c'est vrai. On se dit, elles n'ont pas d'organes spécifiquement dédiés à la captation de la lumière. Alors, il faut se rappeler ce que l'on avait évoqué ensemble il y a quelques mois, lorsqu'on avait parlé de l'intelligence des plantes. Les plantes, aujourd'hui, sont connues comme étant des récepteurs globaux. À l'inverse de nous, parce que nous, on a les yeux pour voir, on a le nez pour sentir, on a la bouche pour goûter, on a les oreilles pour écouter. Mais les plantes, en fait, elles ont des oreilles, des yeux, des bouches sur l'ensemble de leur corps. Et pour ce qui concerne donc la captation de la lumière, elles ont des vrais photorécepteurs qu'on appelle des phytochromes et qui sont constitués principalement par des protéines et puis de... ce qu'on appelle des chromophores, ce sont des ensembles d'atomes qui ont la capacité de détecter l'énergie lumineuse et de l'absorber. Et donc, en fait, si la plante est capable de percevoir cette lumière, c'est parce que dans ses cellules, elle a des organites. Alors, un organite, c'est quoi? C'est un élément qui, au départ, n'est pas constitutif de la cellule, mais qui s'est greffé, entre guillemets, au fil de l'évolution dans la plante. Et ce qu'on appelle les chloroplastes, ce sont comme des espèces de petits grains verts et qui sont constitués aussi de chlorophylle et qui permet donc d'être sensible aux différentes ondes du spectre lumineux. Donc, ils captent la lumière.
Alors, outre la photosynthèse, quel rôle joue la lumière chez les plantes?
Alors, pratiquement la même chose que chez nous. Déjà, le réglage de l'horloge interne, avec les rythmes circadiens, c'est-à-dire que la plante, elle va faire comme nous, elle se réveille lorsque la lumière arrive avec le jour, et elle va s'endormir avec la nuit, et ça, c'est important pour son équilibre. La lumière sert à la germination de certaines graines. Contrairement à ce que l'on pense, toutes les graines ne germent pas à l'obscurité. Il y en a qui ont besoin de voir la lumière. L'induction florale, on en parle suffisamment. Si vous mettez une plante trop à l'ombre, généralement, elle fleurit pas. On vous dit toujours, par exemple, de faire vos légumes au soleil. Ben, parce qu'il y en a besoin, non seulement pour faire mûrir les fruits, pour leur donner aussi la quantité de sucre, la saveur, etc., mais également, simplement, pour commencer le processus en faisant éclore les fleurs. Les plantes aussi sont capables de mouvement par rapport à la lumière. On connaît le tournesol qui... Non, il fait l'inverse, lui. Tournesol. Il se tourne par rapport au soleil.
Il se met toujours à dos.
Voilà, il se met dos au soleil, mais effectivement, il va avoir un mouvement par rapport au fait que la Terre tourne autour du Soleil et sur elle-même, et ce qui fait que la plante doit être toujours derrière. Alors, on a aussi des choses extrêmement importantes qui vont beaucoup plaire à notre docteur Rekia, c'est que la lumière permet la synthèse des anthocyanes, des flavones, des protéines, donc des éléments antioxydants qui sont extrêmement importants, non seulement pour notre santé, mais aussi pour celle des plantes.
Alors, d'après ce que vous nous dites, Patrick, si j'ai bien compris, il est donc impossible pour une plante de vivre sans lumière?
Oui, d'être totalement dans le noir, ça c'est pas possible. C'est la même chose pour nous, pour la plupart des êtres vivants. On a quand même découvert dans des grottes profondes des animaux, par exemple, qui vivaient, mais ils sécrétaient eux-mêmes leur propre lumière. On voit aussi dans les abysses, lorsque vous descendez très profond dans la mer, où là, le spectre du rayonnement solaire est complètement absorbé, donc on est dans le noir absolu, eh bien, il y a des êtres vivants, mais qui sont aussi capables de générer, par fluorescence, généralement, une lumière. Alors, il faut savoir que la plante est capable d'absorber 90% de la lumière qu'elle reçoit. Mmh. Elle en réfléchit une partie, 5%, et puis le reste, ça la traverse, puisque les photons, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On est traversé en permanence par les photons, les neutrinos, etc. La lumière nous pénètre, nous traverse.
Tiens, d'ailleurs, vous avez des questions sur ce sujet. Vous avez remarqué que votre plante, ou à l'extérieur ou à l'intérieur, manque de soleil. En tout cas, vous... vous imaginez que c'est ça le problème? Dites-le nous, appelez-nous, 3216.
Soit elle en manque, soit elle en a trop. Hein.
Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'elle peut en avoir trop.
Elle peut en avoir trop.
Le 3216, l'appli RMC Direct Studio. N'hésitez pas, vous pouvez nous appeler, comme on évoque ce sujet. Voilà, on pourra vous écouter là-dessus. Patrick, qu'est-ce qui se passe quand une plante manque de lumière?
Alors, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est qu'on a une modification bien caractéristique du port de la plante avec une orientation, c'est généralement une inclinaison des tiges vers la zone la plus lumineuse. Quand on est à la maison, ça se voit très très bien. Si vous avez écarté de trop une plante par rapport à la fenêtre, eh bien vous allez voir ces tiges qui vont s'orienter vers la fenêtre. On appelle ça le phototropisme, c'est-à-dire le mouvement lié à la lumière.
Mais c'est-à-dire que la plante va chercher rayon de soleil disponible.
Tout à fait. Moi, par exemple, au jardin, nous avons un grand buisson qui est sous un arbre. Eh bien, petit à petit, il a pris une forme penchée naturellement pour aller vers l'endroit où il perçoit la lumière. Vous avez aussi, en même temps, le développement de tiges grêles, qu'on appelle des tiges étiolées, qui se décolorent, la chlorophylle disparaît, et on a aussi souvent l'observation d'une croissance un peu plus modeste, avec des feuilles qui se rapetissent, on perd de la couleur, et puis comme on le disait précédemment, il n'y a pas de floraison, ou très peu.
Alors on sait qu'il y a des couleurs dans la lumière, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Est-ce qu'elles sont importantes, ces couleurs, pour les plantes?
Alors elles sont extrêmement importantes, d'autant que les rouges, par exemple, jouent un rôle majeur dans la photosynthèse. Et puis certaines couleurs du spectre lumineux jouent aussi un rôle dans la croissance. Donc par exemple, la photosynthèse, vous avez le bleu et le rouge qui sont vraiment les plus importantes. Pour la croissance, c'est la lumière rouge et le rouge qu'on appelle lointain. Alors tout ça, ça se mesure en nanomètres. La lumière rouge, c'est 660 nanomètres, le rouge lointain, 735, etc. Et ça, ça favorise l'élongation des tiges et la floraison. Et le bleu, lui, qui est plutôt plus court, on va dire, c'est 435 nanomètres, c'est responsable du développement des feuilles et également dans la couleur foncée du feuillage. D'ailleurs, le bleu que l'on voit plus dans des zones un peu ombragées, c'est une couleur que l'on voit régulièrement dans des plantes qui vivent dans des lumières tamisées. Le rouge, ça c'est,
ça, c'est plus des lumières intenses.
Voilà, plus au soleil. Voilà.
Alors justement, si une plante reçoit trop de lumière, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, généralement, vous avez un phénomène de brûlure. Vous connaissez avec votre érable du Japon qui est exposé au soleil. Quand il y a des moments de canicule, les feuilles grillent, donc elles ont tout simplement ce qu'on appelle un coup de soleil dans notre langage habituel. D'une manière générale, une plante qui est trop exposée au soleil, elle va un peu perdre sa coloration chlorophyllienne. Elle va commencer à jaunir ou à devenir un petit peu vert pâle. Et donc ça, c'est un des phénomènes qu'il faut prendre en compte. Par exemple, les camélias ou les rhododendrons, qui sont plutôt des plantes d'ombre, quand vous les avez trop exposées au soleil, au lieu d'avoir ce vert très intense qu'ont leurs feuilles habituellement, eh bien, elles deviennent jaunes. Alors, pas comme une chlorose qui indique, disons, un manque de fer, où là, vous avez la nervure principale qui reste verte et le reste qui jaunit. Non, là, c'est une sorte de pâlissement, on va dire. Vous voyez, c'est un jaunissement léger, mais il vous dit, là, t'as trop de lumière.
Alors, on va peut-être pour terminer parler des plantes d'intérieur. C'est vrai que souvent, on a des problèmes de manque de lumière avec les plantes d'intérieur. Patrick, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors déjà, je voudrais dire que l'œil est un très très mauvais instrument pour évaluer l'intensité lumineuse, tout simplement parce que on a deux choses importantes. On a un iris, c'est-à-dire donc la possibilité que la pupille se dilate lorsqu'il y a un manque de lumière, et puis on a un cerveau. Et ce cerveau, lui, il est en permanence en train de contrebalancer les choses pour vous permettre de vous adapter dans un endroit que vous pensez, vous, lumineux, parce que vous voyez, oui, mais qui ne reçoit pas de lumière. Bien sûr. En fait, si on veut savoir exactement combien de lumière il y a réellement, il y a des appareils qui s'appellent des luxmètres qu'il faut utiliser. Bon. Et dans la maison, je l'ai souvent dit, souvent à l'antenne, l'intensité lumineuse décroît très rapidement dans une pièce du fait de la réfraction. Quand vous regardez comment arrive un rayon solaire, d'abord sur une fenêtre dans une maison, il arrive de côté, donc il est déjà moins important que s'il arrivait d'en haut. En ce moment, le soleil est très haut. Si vous avez une serre, eh bien, ça arrive par le toit. Mmh. Quand vous êtes à la maison, ou a fortiori dans un appartement, ça arrive que par les fenêtres. Donc déjà, c'est moins fort. Et en plus, il y a une diffraction, c'est-à-dire que quand il tape sur le carreau, enfin quand la lumière tape sur le carreau, eh bien, elle s'infléchit. Au lieu d'aller tout droit comme ça, elle peut pas le traverser, elle le traverse, oui, mais hop.
Et puis elle va perdre aussi en intensité, non ?
Et donc, mais à cause de ça, comme elle s'est infléchie, eh bien, plus vous allez à l'intérieur de la pièce, et moins l'intensité lumineuse est importante. Et ça, c'est la diminution, c'est avec le carré de la distance. C'est-à-dire qu'à 3 mètres de la fenêtre, vous avez 3 fois 3, donc c'est le carré de 3, 9 fois moins de lumière.
Donc ça va très vite.
Au bord. Donc mettez vos plantes le plus près possible de la fenêtre, mais en ce moment, comme on a beaucoup de lumière quand même, on va filtrer avec un voile translucide, d'accord, les rayons pour pas obtenir ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire une insolation.
Voilà, passionnant hein, la lumière. Hein. On voit que bah, voilà, sans lumière, on ne serait pas grand-chose. On accueille Henri, qui nous attend au 32-16. On parle de tout autre chose avec Henri. Bonjour Henri.
Oui, bonjour.
Bienvenue Henri Duvar.
Oui, c'est ça, exactement.
On vous écoute Henri, bienvenue.
Oui, bon voilà. Eh bien écoutez, j'ai acheté un amandier il y a 3 ou 4 ans que j'ai mis en place. Un amandier chez un pépiniériste. Et l'amandier a pris de très belles formes, puisqu'actuellement il mesure à peu près 3 mètres de haut et presque 3 mètres de large. Et cette année, pour la première fois, il était couvert d'amandes. Mais alors, les branches ployaient sous les amandes. Alors j'étais super content. Malheureusement, toutes les amandes que j'ai ramassées, elles ont toutes le vert. Elles ont un vert à l'intérieur, ou elles se sont rabougries. Il n'y en a aucune qui est comestible sur des kilos et des kilos d'amandes.
Eh oui, j'ai vu vos photos, et il a suffi que je regarde la photo des amandes pour déceler le problème. C'est un insecte qui est présent dans notre pays depuis les années 80 et qui s'appelle la guêpe de l'amande. Donc, vous avez l'insecte qui pique l'amande lorsqu'elle est en formation et vous avez sa larve qui se développe à l'intérieur et qui consomme absolument ce que vous auriez voulu récolter. La problématique de ça, je suis obligé de le dire chaque fois qu'on est confronté à un problème phytosanitaire, c'est que la législation nous a quasiment tout éliminé. Les jardiniers amateurs n'ont absolument plus le droit d'utiliser des produits d'origine chimique de synthèse, et donc on est bien embêté. Alors, il y a déjà une prophylaxie à faire, c'est-à-dire de détruire évidemment systématiquement les amandes qui sont contaminées, y compris celles qui sont restées sur l'arbre, parce que cela, ça va vous réduire les risques d'infestation.
Bon. Donc je ramasse tout maintenant.
Tout, et même ce qui est, a fortiori ce qui était tombé, mais même ce qui est sur l'amande, bon, vous le ramassez ou vous le ramassez en fin de saison, mais de toute façon, c'est important. Alors, derrière ça, on dit que la seule solution qu'on peut avoir, enfin c'est un truc un peu bizarre, c'est de placer une bouteille avec un maximum d'amandes contaminées de l'année précédente et qui ont été récoltées assez tard. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, il faut savoir que l'ensemble du cycle de cet insecte se fait à l'intérieur de l'amande. Donc si vous récoltez les amandes en fin d'hiver, vous les mettez dans cette bouteille, eh bien, ça va éviter que les adultes puissent émerger. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, c'est comme si c'était une sorte de piège. Voilà.
Oui,
bon.
Voilà.
Mais sinon, il faut faire appel à un agriculteur. Vous êtes dans une région d'Amandier ?
Eh ben, je suis à Toulon, oui. Oui, puisque sur mon terrain, quand j'avais acheté en 76, il y avait peut-être une dizaine d'amandiers et qui sont restés de 50 ans, qui sont restés pendant très loin. Le dernier est mort il y a très peu de temps. Et les amandes étaient très saines. C'est ça que je comprends pas.
Je vous dis que c'est un insecte qui est arrivé dans les années 80 et qui s'est énormément développé. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que la Corse, chère à François, qui n'est pas atteinte. Donc, voilà. Après, si vous avez un professionnel, bah, il peut, lui, effectuer les traitements. Et à ce moment-là, quand vous le voyez qu'il est en train de travailler dans ses champs, bah, vous lui demandez qu'il vienne faire un petit traitement chez vous.
Henri, merci pour votre appel. Bientôt, quasi 6h30 sur RMC. On va revenir juste après la météo. Et on va, Patrick, tout savoir, tout découvrir sur la passiflore et sur les fruits de la passion. Avec en plus, en renfort, Christian Ekia qui nous en parlera au niveau nutritionnel. 32-16 hein, pour vos questions. L'appli RMC Direct Studio, on revient dans un instant.
RMC, 6h-7h. Votre jardin, François Sorel,
Patrick Mulan.
Nous sommes de retour, 6h30 tout pile, c'est le week-end des experts, c'est le jardin. Chaque samedi, nous sommes avec Patrick Mulan entre 6h et 7h, avant de retrouver Christian PC tout à l'heure pour la maison et un spécial climatisation. Patrick,
oui.
Le 32-16 bien sûr, vous voulez joindre notre jardinier, profitez-en, 32-16 le standard, ou bien si vous avez votre smartphone avec l'appli RMC, vous avez Direct Studio, très facile, vous nous laissez votre message avec votre numéro de téléphone et on peut vous rappeler dans la foulée. Patrick, on va maintenant découvrir les passiflores et les fruits de la passion.
Ce sont des plantes de saison,
mais voilà.
On va dire.
Alors peut-être pour commencer, quelques mots de présentation sur les passiflores, qu'on en appelle aussi fleurs de la passion. Hein.
Oui, alors on verra pourquoi tout à l'heure. Les passiflores sont principalement des plantes d'origine américaine. On en connaît un peu plus de 530 espèces, donc c'est pas rien. Je crois qu'il en existe une à Madagascar, peut-être deux, trois d'origine asiatique, mais globalement, sont des plantes américaines, plutôt tropicales ou subtropicales. La plante, elle a été nommée Passiflora par Carl von Linné en 1753 comme une quantité impressionnante de plantes. Et elle a donné son nom à la famille des Passifloracées, qui contient 17 genres, dont quasiment aucun n'est connu en France, donc je vous en parlerai pas. Alors si, peut-être Turnera, si vous êtes allé dans les pays tropicaux et que vous voyez, notamment dans les hôtels, souvent, des plantes couvre-sol qui mesurent une vingtaine de centimètres avec des grosses fleurs jaunes, eh bien ce sont des Turnera, famille des Passifloracées. Voilà.
D'accord. Dans un instant, on s'intéressera aux qualités nutritionnelles avec notre médecin préféré, Christian Ekia, qui est déjà là. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
Je vois que vous buvez, buvez les paroles de Patrick,
bien sûr. Tout à l'heure, il y a 7 minutes 50, quand Patrick évoquait les longueurs d'onde et les couleurs qu'une plante était capable de faire, c'est exactement la réaction d'une rétine. Finalement, dans le monde végétal et dans le monde animal,
il y a
le même fonctionnement. Quand on parle de chloroplastes, nous, on a les mitochondries. Et sachez que quand on passe des lumières à 3 mm de la peau, eh bien, cela stimule les mitochondries et ça enlève les ridules. Eh bien, c'est exactement le même phénomène sur les plantes. C'est phénoménal.
C'est pour ça que Patrick est
parfait. Patrick devait être à l'académie assurément.
Mais oui, assurément. Mais il a pas de ridules. C'est parce qu'il est justement tout le temps au soleil.
Oui.
Parce que je suis un peu rond.
Oui,
ça évite des rides.
Alors, on revient sur la fleur de la passion. Pourquoi ce curieux nom, Patrick? Tiens, fleur de la passion.
Alors, la plante a été découverte par les Européens via les conquistadors lorsqu'ils ont été en Amérique et ils étaient accompagnés par des religieux, jésuites. Et ces gens-là ont vu dans les organes floraux de la passiflore les instruments de la passion de Jésus-Christ. Alors, quand vous regardez une fleur de passiflore,
qui est très belle,
vous avez déjà autour de la fleur un cercle de filaments qui sont roses, qui sont pourpres, qui sont violacés, et ils ont vu là-dedans la couronne d'épines. Si vous plongez au cœur de la fleur, vous allez vous rendre compte que le pistil est fabriqué de trois styles, c'est-à-dire donc la partie longue du pistil, qui ressemble vraiment, c'est vrai, au clou qui aurait fixé Jésus sur la croix. Quant à l'ovaire, eh bien, c'est assez drôle, effectivement. Il y a vraiment une forme de marteau. Alors, il y a aussi les feuilles qui sont, chez certaines espèces, terminées par des pointes, qui donnent l'idée de la lance qui avait transpercé le flanc du Christ. Et on dit aussi que les vrilles, qui sont caractéristiques des tiges de cette plante volubile, eh bien, évoquent le fouet qui avait flagellé le Christ.
Eh bien, dites-moi, quelle histoire. Est-ce que vous pouvez nous décrire sommairement une passiflore, Patrick ?
Alors, je vous ai déjà décrit pas mal la fleur. On va parler de la plante. C'est des lianes assez importantes qui peuvent atteindre facilement 5-6 mètres de long pour certaines. Feuillage persistant. Et donc, les fleurs qui ont une particularité, c'est qu'elles sont éphémères. Quand vous voyez dans un catalogue de pépiniéristes ou sur Internet, lorsqu'on vous vend des plants, une passiflore, une photo de passiflore avec 50 fleurs dessus à la fois, c'est une photo bidonnée, parce que la passiflore fleurit énormément, mais il est rare qu'elle porte, on va dire, plus de 4-5 fleurs à la fois, et rarement en bouquet. Elles sont toujours espacées. Elles sont espacées. Pourquoi ? Parce que si vous regardez bien comment se développent les tiges jeunes des passiflores, vous allez voir la chose suivante. Vous voyez une feuille, une vrille, un bouton floral, un entre-nœud, c'est-à-dire un bout de tige, une feuille, une vrille, un bouton floral. Donc, la floraison est étagée sur l'ensemble du jeune rameau, et donc, en aucun cas, vous ne pouvez avoir une gerbe de passiflore, comme on vous le montre parfois, ce qui n'empêche que la plante est quand même très, très sympa. Bien sûr, il y a des fruits derrière ça.
Bien sûr. Est-ce que les passiflores sont parfumées ?
La plupart, oui. Alors, c'est pas la rose, hein. C'est pas extraordinairement puissant, mais c'est très important parce que la plupart des passiflores sont entomogames, c'est-à-dire qu'elles sont fécondées par des insectes et il faut bien qu'elles les attirent. Il y a quand même une plante, un cultivar, un hybride qui s'appelle Incense, donc I-N-C-E-N-S-E, qui doit son parfum fort, celui-là, vraiment à ce qui ressemble à de l'encens. Alors, c'est pas le parfum le plus agréable qui puisse exister, mais c'est une plante qui est très belle, avec des belles fleurs violettes, et puis qui sont donc très parfumées.
Bon, alors Patrick, parce que depuis tout à l'heure, vous nous parlez des passiflores, mais l'essentiel, c'est de se dire, est-ce que je peux faire pousser en France des passiflores ?
Qui s'appelle Passiflora cerulea, la passiflore bleue. Alors, on peut dire dès quand même, François, c'est qu'il y a eu des cultivars qui ont été développés à partir de Passiflora cerulea. Il y en a des blancs, par exemple, qui sont très très beaux. Et généralement, c'est quand même plutôt dans le bleu violacé. Elles tiennent, on dit qu'elles tiennent jusqu'à moins 7, moins 8 degrés. À condition d'être bien abrité et dans un sol qui sera pas trop humide pendant l'hiver. Je dirais que globalement, si vous avez un mur qui est bien exposé, un truc du genre sud-ouest par exemple.
Ah oui.
Alors sud-est, ça serait pas trop bien. Pourquoi sud-est c'est pas trop bien ? Parce que au petit matin, lorsqu'il a fait bien froid, vous avez tout de suite les rayons du soleil qui reviennent dessus et donc ça peut vous faire vraiment un.
Ça peut cramer un petit peu là.
Ça favorise l'éclatement. C'est-à-dire que quand les cellules ont pris le gel. Les vacuoles, c'est-à-dire des espèces de poches qu'elles ont à l'intérieur et qui sont remplies d'eau, ces vacuoles se sont prises en glace. Donc elles ont grossi, elles ont poussé sur les membranes de la cellule. Si jamais le dégel se fait pas trop rapidement, vous pouvez avoir des éclatements et c'est là que les rameaux claquent. Donc plutôt donc sur le sud-ouest, sinon. Eh bien, on hiverne la plante à l'abri dans une véranda. C'est quand même parfois un tout petit peu plus sûr. C'est ce que nous, on a fait cette année. On a planté tout ce monde-là dans des pots et on verra bien comment ça va hiverner à l'intérieur.
Donc, exposition lumineuse, sans vraiment un soleil brûlant.
Oui, il faut pas que ça soit cramé, oui.
Au niveau de la terre?
Le pH a peu d'importance, ça pousse assez bien dans les sols argilo-calcaires, mais de l'humus. C'est une plante quand même qui a besoin de bon apport de compost, de terreau ou même de fumier décomposé.
Alors avant de donner la parole à Christian Ekia, puisque maintenant on va rentrer un peu dans le vif du sujet du fruit de la passion, Patrick, pourquoi on l'appelle grenadille ?
Parce que quand vous regardez le fruit de la passion, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à une sorte d'œuf avec une peau lisse, comme une grenade. La grenade, c'est plus arrondi. Mais surtout, quand vous le coupez, vous avez quoi ? à l'intérieur, vous avez une pulpe avec des pépins. Mmh. Alors, c'est pas aussi flagrant que la grenade hein, qui dégorge complètement de pépins, mais la constitution est la même. C'est-à-dire que vous avez la graine qui est entourée de ce qu'on appelle une arille. Donc, c'est cette forme charnue que l'on va consommer. Et c'est vrai qu'avec le fruit de la passion, on mange aussi les graines. Hein. C'est pas le cas avec la grenade. C'est un peu plus indigeste, les graines de grenade.
Comment consomme-t-on justement le fruit de la passion ?
Alors il faut savoir une chose, c'est que cette pulpe qui est très fine, qui est très particulière, on la cuit pas. Donc il faut pas en faire, une sauce ou quelque chose.
Ou une confiture, un truc comme ça. Peut-être la confiture.
Ça existe quand même, mais c'est rarement tout seul, parce que c'est en même temps c'est assez acide comme goût. Non, on va surtout l'utiliser dans les salades de fruits, et il en faut pas beaucoup. C'est vrai que c'est extrêmement cher chez les primeurs, actuellement, ça dépasse en général, mais ça descend pas en dessous de 20 € en général le kilo. Mais une seule.
Ce qui coûte le plus cher, c'est le transport, là. On imagine, non? Ça vient d'où, tous ces fruits?
Ça vient surtout d'Amérique du Sud. En France, par exemple, on produit beaucoup en Guyane. Il faut les récolter à la main. Il faut même parfois les polliniser à la main. Donc, ce fruit, lui, on va l'utiliser dans des sorbets. Où on va le mélanger avec d'autres fruits, ça c'est vraiment très très bien. On peut en faire des cocktails, on peut en faire des mousses, on peut aussi en faire des alcools.
Bon, alors maintenant, des alcools ? Ne dites pas ça à Christian Ricard, franchement.
Avec tous les fruits, on peut faire des alcools.
Oui, c'est ça, Christian.
Et oui, cela dit, là, j'écouterai Patrick des années et des années entières, toute l'année. Ce que je peux constater, c'est qu'il faut parler de la fleur et il y a le fruit. Sur le fruit, beaucoup de sucre. Peu d'antioxydants intéressants, mais beaucoup de sucre et des sucres plutôt en amidon qui ne sont pas finalement insulino-sécréteurs. C'est vraiment un fruit qu'il faut mettre en petite proportion dans une salade de fruits. C'est un fruit de la précaution.
Il y a quand même des polyphénols.
Il y a un peu de vitamines ou pas
plus que dans une pêche, pas plus qu'il y a.
Il y a un peu de vitamines quand même.
Oui, à condition de la manger fraîche, à condition de la manger rapidement, ne pas la laisser trop longtemps chez soi parce qu'évidemment, il faut vraiment la manger mature. C'est vraiment le fruit qu'il faut manger à la maturité parce qu'au-delà, c'est de l'eau.
Et avant, c'est immangeable. C'est extrêmement amer.
On est sur une crête de consommation qui est délicate. Et les grands vendeurs de fruits de la passion que je connais à Rungis disent que c'est extrêmement difficile d'avoir de très beaux fruits. Et ces fruits sont chers parce qu'on en perd beaucoup. Donc c'est très important. Le transport est un élément.
Mais voilà, le transport est.
Oui.
L'empreinte carbone du fruit de la passion est colossale quand même, Patrick.
Oui, mais il n'est pas tout seul. Il voyage avec d'autres.
Oui, c'est clair.
Ça, c'est le truc qui m'agace.
Non, bien sûr, mais je veux dire.
Pour le vendeur que je connais, il le met dans des soutes avec des valises et il dit ça coûte quasiment rien.
En plus, le fruit, il est relativement léger quand même. Hein.
Oui, c'est pas très
dense. En fait, quelques-uns. Non, mais. C'est un fruit climactérique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un fruit comme la banane que vous pouvez cueillir avant maturité.
Et qui va mûrir, en fait, durant le transport dans des.
C'est ce que j'allais dire.
Faites l'expérience chez vous. Vous avez acheté un beau fruit de la passion, bien dodu, mais bien lisse. Vous le laissez dans la coupe de fruits. Quelques jours après, la coque va se flétrir, ça va rapetisser. Et à l'intérieur, le fruit va s'être gorgé de sucre. Au départ, il est plus acide et après, il va être de plus en plus sucré.
Et c'est comme la poire, il y a une maturation du fruit. Et d'ailleurs, il y aurait une émission à faire là-dessus. Il y a une maturation des fruits qu'il faut intégrer, comme les grands vins. Il y a un savoir-faire qu'on n'explique plus aux enfants.
Il faut affiner.
Il faut affiner, je cherchais le terme. Cela dit, maintenant, la fleur. Alors, la fleur est passionnante.
Est-ce qu'elle a des propriétés médicinales, la fleur ?
Colossale.
C'est étonnant de constater que le fruit, finalement, n'est pas hyper intéressant au niveau nutritionnel, mais que la fleur, elle, a un intérêt.
À cause de Pétain, nous avons perdu cette capacité à comprendre que les fleurs ont toutes un intérêt médical. Passiflore est resté pour des raisons culturelles, mais c'est vrai que là, on a un produit qui est véritablement efficace sur la mise en place au niveau cérébral d'une paix et d'un endormissement. Et le souci de Passiflore, c'est que c'est un produit hyper efficace. Et quand dans Euphytose, qui est un produit que je prescris très fréquemment, vous arrivez à vous endormir beaucoup plus facilement. Il faut bien se dire qu'avec Euphytose, ne prenez pas ce produit avec d'autres médicaments. Il faut être prudent pour les femmes enceintes. Mm-hmm. Il faut être prudent avec des produits qui ont le même intérêt, parce qu'il n'y a pas que la passiflore qui fait dormir, il y a d'autres produits qui font dormir.
Pas vous. Hein.
Et voilà. Et si concrètement vous prenez passiflore avec d'autres produits qui font dormir, vous pouvez avoir des troubles digestifs, des constipations, des problèmes cardiaques. Donc effectivement, c'est un produit à prendre isolément. Et je dirais même un point, c'est sans doute le dernier produit qu'un humain peut prendre à 80 ans. Quand on a 80 ans, les médecins vous interdisent de prendre des médicaments pour dormir, parce que ça peut vous tuer. Eh bien, Euphytose, c'est le dernier produit qu'on prend pour vous apaiser et vous endormir.
Avec une réelle efficacité.
Avec une réelle efficacité.
D'accord.
Ça, c'est très important.
Alors, attention, on ne mange surtout pas les parties vertes, parce qu'elles contiennent de l'acide cyanhydrique, et donc c'est un poison violent.
Patrick,
voilà. Merci d'avoir précisé cela.
Mais bien sûr, on revient dans un instant, on va retrouver vos questions. Bertrand sera là, il va nous parler de ses pieds de tomates qui visiblement ne sont pas très très en forme. Et puis on retrouvera la météo du jardinier et les coups de cœur de Patrick pour terminer ce rendez-vous jardin. 32-16 pour nous joindre, l'appli RMC Direct Studio. On revient dans quelques secondes, à tout de suite.
RMC jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC
jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Nous voilà de retour, le week-end des experts, le jardin, avec Patrick Mulan à mes côtés. On est là jusqu'à 7h. Dans quelques instants, vous retrouverez la météo et les infos. Patrick, avant de faire un point sur la météo du jardinier, c'est Bertrand que l'on accueille. Bertrand de l'Isère. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour
Bertrand.
Bonjour à tous les trois. Je suis ravi de vous avoir au téléphone.
Eh bien, c'est un plaisir partagé, Bertrand, sincèrement. Et on vous écoute.
Eh bien, écoutez, pour résumer, moi j'ai fait, donc ça fait 13 ans que je fais du jardin. Je plante les légumes, on va dire, habituels du jardinier amateur. Les tomates, les courgettes, les cornichons, les haricots verts. Et cette année, donc j'ai planté mes pieds de tomates à peu près fin avril. On a eu exceptionnellement les fameux seins de glace, avec un petit coup de froid. Et suite à ça, alors je ne sais pas s'il y a un rapport, je me suis retrouvé avec mes pieds de tomates infestés de pucerons rouges. Mmh.
Oui, alors c'est des pucerons roses, là, vous m'avez envoyé les photos, on les a...
Ouais.
Alors si ça vous intéresse, ça s'appelle Macrocyphum euphorbiae.
Voilà.
Non mais il y a pas mal de pucerons qui attaquent les tomates, mais là il est assez caractéristique. Alors il est pas pire que les autres, hein, ce puceron. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi j'en ai cette année, pas les autres années? Vous savez, la loi Labbé, qui nous interdit tous les traitements dans nos jardins, et dans les espaces verts aussi publics, et en place depuis 2019, 2017 dans l'espace public, 2019 dans les jardins amateurs. Votre problème que vous exposez très bien actuellement va ne faire que s'amplifier d'année en année. Parce que il faut pas croire que parce que un politique décide que demain on n'utilise plus de produits de soins et de protection pour les jardins, que tout d'un coup, les ennemis et maladies qu'on avait précédemment vont disparaître comme par enchantement. Et les méthodes dites alternatives que l'on essaye de mettre en place pour parer à ce problème, ça ne fait pas le même effet. Donc, on va progressivement assister à des... Alors, pas jusqu'à des épidémies, et encore, on n'en sait rien, mais des pressions de ravageurs, de bio-agresseurs, comme on dit maintenant, de plus en plus importantes. Donc, dans votre cas, malheureusement, j'ai pas grand-chose non plus à vous donner comme résultat efficace, parce que d'abord, vous avez pu constater, et on le voit bien sur vos photos, les pucerons sont tous groupés à la face inférieure des feuilles.
Exactement.
Donc, si vous utilisez un insecticide classique dont il ne reste plus qu'un seul exemplaire, donc à savoir des pyrètes naturelles, et qui agit par contact, eh bien, il va falloir soulever chaque feuille de tomate pour pulvériser dessous, ce qui va quand même pas être extrêmement pratique. Et puis, on évite de toute façon d'utiliser dans un potager ce type d'insecticide parce que il agit, on va dire, comme un effet de choc et il faut être certain qu'on n'a pas, par exemple, à proximité, notamment en cette saison, des pollinisateurs qui pourraient être en contact avec le produit. Donc c'est pas du tout commode. Donc l'idée, ça serait, évidemment, ça c'est l'idée écologique de base, ça serait de développer la présence d'auxiliaires, donc de coccinelles, de syrphes, d'insectes comme ça, qui sont protecteurs, ou du moins qui sont prédateurs des pucerons à travers leurs larves, de façon à ce qu'on obtienne, on va dire, une sorte d'équilibre naturel. Alors on vous dit, parfois, ça serait bien que vous mettiez, par exemple, des hôtels à insectes dans votre jardin. Personnellement, ça fait plus de 5 ans que j'en ai un. J'ai jamais vu un seul insecte venir dormir dedans. Et j'ai regardé un peu partout autour de nous où il y en a. C'est exactement la même chose. Alors, au départ, ça fait quelque chose d'assez sympa au point de vue du décor. Et puis, petit à petit, ça s'effrite, ça devient un truc moche et c'est pas du tout efficace. Donc, qu'est-ce que l'on pourrait faire? Déjà, faut bien désherber. Faut bien désherber parce que les pucerons peuvent avoir dans les plantes sauvages ce qu'on appelle des hôtes secondaires, et donc ça c'est important. Après, sur la plupart des insectes piqueurs-suceurs, les pièges jaunes, qui sont collants, ont tendance à attirer, et notamment les formes zélées. Zélées, c'est pas un KZ, c'est les formes qui ont des ailes, et qui sont généralement les femelles fondatrices des colonies et donc qui vont venir se coller là-dessus, donc vous allez limiter. Il y a aussi des panneaux bleus qui sont englués et qui fonctionnent également assez bien. Donc voilà, on va avoir à peu près ce seul ensemble de remèdes pour essayer de le faire. Faites bien aussi la rotation des cultures en éloignant le plus possible l'année prochaine la nouvelle culture de tomates de la planche actuelle. Ça pourrait être assez important. Et si vous le pouvez, essayez d'éviter de grouper les cultures. C'est-à-dire que de changer le mode de culture au potager, au lieu de mettre toutes les tomates ensemble, tous les haricots verts ensemble, etc., on mélange tout le monde de manière à ce qu'il y ait des confusions olfactives. Ça donne relativement de bons effets. Et puis, même si c'est interdit, entre guillemets, d'ordinaire, mais quand il fait chaud, comme il va le faire chaud la semaine prochaine, je vous conseille, moi, de doucher, mais à jet violent, vos tomates. Alors, ça, il vaut mieux le faire, on va dire, dans le courant de la matinée, vers 10h, 10h30, pour que ça sèche relativement vite, mais un jet violent, appliqué notamment sous les feuilles, mais ça c'est facile à faire avec un jet d'eau et un pistolet, eh bien vous allez noyer, éliminer une partie des pucerons.
Très bien. D'accord. Voilà Bertrand.
Eh ben, je vous remercie en tout cas pour l'explication. Et puis, je voulais juste faire une toute petite aparté, si je peux, 30 secondes.
Allez-y.
Moi, je suis, j'ai fait une vingtaine de boulots depuis que j'ai commencé à travailler. J'ai 45 ans. Oui. Et maintenant, je me suis mis en service à la personne. Et je passe 95% de mon temps, déjà dans mon village et dans les jardins. Donc, je suis ravi de vous avoir au téléphone. Je vous remercie pour l'émission que vous faites. Parce que, et notamment pour la météo du jardinier qu'on va avoir.
Ben voilà, elle arrive.
Énormément. Et ça me permet de bien me régler sur ce qu'il y a à faire au bon moment.
Bon, ben Bertrand, vous avez déjà été présentateur ou pas?
Non, pas du tout.
Radio. Ben alors, lancez-moi la météo du jardinier de Patrick Mulan. Comme ça, je reste tranquille. Allez-y.
Eh ben écoutez, pour l'instant, on va écouter la météo du jardinier par notre cher Miu Miu.
Eh bien, on y va, Patrick. Merci. Moi, j'ai plus rien à dire. Hein.
Ben non, voilà.
Alors, on y va.
Alors, j'ai une information extrêmement importante. Attention, accrochez-vous. Aujourd'hui, 18 juillet, ne jardinez surtout pas entre 9h25 et 19h40.
Ah, parce la lune.
Il y a un nœud lunaire à 100 degrés.
Un nœud lunaire, dites-moi.
Oui. Je ne sais pas comment la lune fait des nœuds, mais non. Peu importe, c'était comme ça. Si vous y croyez, tant mieux pour vous.
Enfin, c'est alors, peut-être les nœuds qui y croient.
Que va-t-il se passer cette semaine? On va dire que grosso modo, on va vivre une bonne et belle semaine d'été, avec toujours quand même des matinées assez fraîches. On peut avoir des 12-13 degrés dans le nord du pays, au petit matin, c'est quand même pas beaucoup. Et parce qu'il y a des vents qui sont faibles, plutôt d'origine nord-nord-est, et c'est en permanence comme ça. Pas d'eau du tout avant vendredi. Il est fort probable que l'on ait un week-end totalement catastrophique la semaine prochaine.
Partout.
Parce que, à force qu'il ne pleuve pas, qu'il fasse un peu chaud, parce que voilà, la température va continuer à monter un peu. On aura des vraies moyennes d'été autour de 27, 30 degrés dans la plupart des régions au milieu de la journée. Et bien entendu, ça a tendance à provoquer petit à petit des orages. Et donc, vous avez toute la semaine pour profiter de votre jardin, de bien arroser, évidemment, parce que il ne pleut pas depuis très très longtemps, d'augmenter peut-être les couches de paillis, de doucher les feuillages le soir avec la plupart des plantes qui ont besoin d'être reconstituées, même celles dont on vous parle, comme les rosiers par exemple. On dit il faut pas mouiller le feuillage des rosiers, faites-le quand même, parce que à partir du moment où l'eau s'évapore en moins de 2 à 3 heures, vous avez aucun risque de maladie cryptogamique, et ça fait, je peux vous garantir, très très une vraie stimulation aux plantes, ça fait du bien. Voilà, et de toute façon, jardiner, ça fait du bien. Donc il n'y a pas grand-chose d'urgent à faire, hormis profiter de son jardin. Les mauvaises herbes, entre guillemets, ne poussent pas, parce qu'il fait sec. Donc ça, c'est une chose importante. Et puis, il n'y a pratiquement pas non plus. Moi, je vois très très peu de maladies. Alors, il y a eu des taches là sur les rosiers. Bon, si ça avait été bloqué, ramassez bien les feuilles des rosiers quand elles tombent pour éviter la propagation. Mais vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire.
Parfait. Voilà pour la météo du jardinier. Une belle semaine qui s'annonce. Une semaine qui sera chaude. Et vous savez quoi, ça tombe bien, puisque dans quelques instants, avec Christian Pessé, on va vous conseiller concernant la climatisation.
Oui.
Patrick, on termine avec vous, coup de cœur.
Oui, deux livres. Alors, Mes jardins de Paris, d'Alain Baraton, chez Grasset. Alain Baraton, vous le connaissez, c'est le jardinier de Versailles. Il a un don extraordinaire pour raconter les histoires.
On l'a eu quelques fois d'ailleurs, dans cette émission.
Oui, alors c'est toujours difficile parce qu'il est sur une autre radio presque en même temps que nous, mais bon.
Quelle idée bizarre quand même.
Non, mais il est
incongru.
Franchement, Alain a beaucoup, beaucoup de talent par rapport à raconter les choses, et notamment historiques. Son livre, c'est comme un roman, il n'y a absolument aucune photo, c'est peut-être la critique que je donnerais, puisqu'il raconte tous les jardins, les squares, etc. Il y en a qu'on ne connaît pas, on aurait bien aimé voir un peu la tête qu'ils ont, mais c'est vraiment plus qu'un guide, c'est un voyage dans le temps, dans l'espace, et puis vous êtes mené par le talent de conteur d'Alain. Donc ça, c'est chez Grasset, ça coûte 22 euros, Mes jardins de Paris. Et puis pour les amateurs d'oiseaux très importants pour jouer les insectivores, d'ailleurs j'en ai pas parlé par rapport aux pucerons, mais c'est vrai que les hirondelles et les martinets sont certainement les oiseaux les plus consommateurs d'insectes. C'est pas forcément des oiseaux qu'on connaissait très bien, et il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Les hirondelles, de Georges Olioso, chez Delachaux et Niesley. C'est un beau livre carré avec des belles images, et qui vous raconte vraiment vraiment tout ce qui se passe au niveau des hirondelles, notamment un peu leur déclin. C'est vrai qu'on en voit de moins en moins, tout simplement parce qu'on leur offre pas les abris dont elles ont besoin pour nidifier. Ce sont des insectes des insectivores qui sont migrateurs, mais qui sont vraiment très 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 très
utiles. Tellement agréable d'avoir des oiseaux comme ça dans le jardin ou sur la terrasse.
Donc merci Patrick. Les hirondelles, chez Delachaux.
Parfait.